Charles Ingen, directeur de programme et de l'information à la radio Niuta Asubuhi, une radio partenaire à la radio Kapi. Je rappelle que Niuta Asubuhi, si on soit lié, ça veut dire en français, l'étoile du matin. Niuta Asubuhi, bah, c'est donc
à... la matutina, la terre, oui.
Ah, ok. Merci. Merci pour ces compléments d'information. Alors, votre radio est basée à Kalima, à 101 km de Kindu. Nous sommes là donc dans la province du Maniema. Et Kalima, une ancienne cité de la Somaïki, société minière.
Et industrielle du Kindu.
Voilà, merci de me confier. C'est vrai que ça fait longtemps quand même. Alors, cette cité était rayonnante à l'époque, hein, étant donné que la Somaïki était là et la vie était quand même facile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Kalima?
Karine, ce qui reste de Kalima, c'est tout d'abord les courants hydroélectriques. Hein.
Ah, ok.
C'est
ouais,
vraiment
ouais.
Un petit coup. Et ça fait la fierté même de cette cité minière. Et présentement, nous desservons même la ville de Kindu, la capitale du Maniema, avec ce même courant. Ça, c'est vraiment un acquis. Mais aussi, Karine, ce sont les beaux bâtiments de style belge. Ça, c'est quelqu'un qui arrive à Kalima, et il ne peut pas envier des bâtiments qui se trouvent à Goma, à Kisangani ou à Kinshasa même. Ça, c'est vraiment les bijoux que nous avons à Kalima.
Alors, nous retenons le courant électrique et les bâtiments. Est-ce que les bâtiments sont toujours en très bon état comme c'était à l'époque? Parce que, bon, je me dis, avec le départ de la Somaïki, on pourrait s'attendre à tout.
Oui, le bâtiment, on le met bien sur mesure, mais au moins, le bâtiment reste. Et ce sont des beaux bâtiments, à moitié entretenus. Mais aussi, Karine, un autre bijou à Kalima, c'est cet oxygène non pollué desservi par une chaîne de collines en toute verdure qui scintille à distance la cité de Kalima, mais aussi la diversité culturelle. Hein. À Kalima, vous avez vraiment une multiplicité de cultures.
La diversité culturelle aussi, on retient à Kalima, la cité minière. Alors, à l'époque, il y avait un grand hôpital grâce à la Somaïki. C'est vrai que, quelque part, l'histoire de Kalima est rattachée à la Somaïki. Hein. Bon, à l'époque, il y avait un grand hôpital. Est-ce que cet hôpital existe toujours? Est-ce que c'est toujours fourni en matériel? Est-ce que c'est toujours fonctionnel comme c'était à l'époque?
Les grands hôpitaux est toujours là avec ses beaux bâtiments, mais malheureusement, moins entretenus. Et que les médicaments, les produits pharmaceutiques ne sont pas vraiment en suffisance. Hein. Donc, c'est vraiment alarmant.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour vous faire soigner? Qu'est-ce que les malades de Kalima font?
Bon, les malades, c'est de vrai. Il y a de centres de santé privés, mais il y a aussi notre structure médicale catholique qui est des hommes, qui essaie un peu de soigner les gens. Mais aussi, il y a aussi une ONG, Merlin, qui essaie un petit peu, alors, un petit peu de fournir quelques produits pharmaceutiques à l'hôpital général de référence de Kalima. Mais c'est insignifiant.
Alors, la population de Kalima à l'époque était habituée à la cantine, la population était gâtée par la Somaïki. À présent, ça se passe comment? Depuis que les choses ont changé, depuis que la Somaïki a quitté, ça se passe comment? La population est obligée quelque part de se débrouiller, or c'était pas dans les habitudes. Et cette débrouillardise, c'est pas quand même assez bien.
Oui, en tout cas, Karine, là, c'est un point très sensible. Vous savez, avec l'exploitation industrielle de la cassiterite menée pendant plus de 50 ans par la Somaïki, les sols ressemblent pour le moment à un désert, avec comme conséquence, les denrées alimentaires coûtent cher, car insuffisantes. Tenez par exemple ces indices de prix, Karine. Une bouteille d'huile de palme coûte 450 francs congolais. Un kilo de viande de 2800 francs congolais. Une pâte de singe, 2500 francs congolais. Un verre de riz, 100 francs congolais. Un verre d'arachide, 100 francs congolais. Un verre de haricots, 250 francs congolais. Un gobelet de farine de manioc, 60 francs congolais. Une bouteille de bière Primis, 2400 francs congolais. Bref, ça arrive les jours où tu seras à Kalima. En tout cas, remplis bien ton portefeuille. Et ne sois pas surpris, hein, si on t'accueille avec un repas composé essentiellement de bananes plantains au poisson salé, repas des premiers choix de la cuisine majoritaire du midi.
Oui. Oui, je sais même qu'on disait que les règles avaient vendu Kalima à cause de poisson salé.
C'est vrai.
Alors, on comprend par là que la vie est vraiment chère à Kalima. Mais la population qui vit essentiellement, par exemple, pour la majorité de la population, quelque part qui vit de l'exploitation artisanale, comment elle fait? Parce que c'est pas facile. Bon, c'est vrai qu'il y a la chasse et tout, mais c'est pas ça fatigue. Un peu comme vous dites, la pâte d'un singe coûte 2000 francs. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Mais manger déjà cette viande de singe. Donc, vous êtes...
Oui, c'est ça ce que je vous dis. Hein.
Vous êtes obligé de manger...
Et les gens, pour manger parfois de la viande, se rabattent à des camundélés, entre guillemets. Donc, ce sont des petits morceaux de viande qu'on coupe hein, et qu'on vend comme ça. Et qui peut coûter 100 francs, par exemple. Donc, si quelqu'un a 300 francs, il a son foufou, il peut acheter trois petits morceaux de viande déjà préparés, appelés camundélés. Et il coûte une petite classe pour se mettre, c'est déplorable. Et avec comme conséquence, le taux de malnutrition est très marqué ici à Kalim.
Mais à Kalim, on retrouve quand même des champs où on cultive du manioc.
Oui, on cultive le manioc. Et d'ailleurs, le fait que le manioc constitue le repas à légumes essentiel de toute la famille. Hein. Donc, ça se consomme tous les jours.
Alors, vous avez parlé également de... Des bananes plantains, ce qu'on retrouve donc en abondance là-bas à Kalim, les bananes plantains.
Oui, les bananes plantains se retrouvent, hein, surtout que c'est une culture qui ne demande pas grand-chose. Hein. Les gens s'y mettent, même aux alentours de maisons, vous allez trouver du bananier et on en produit.
Je rappelle que Charles Ingen, vous êtes directeur de programme et de l'information à la radio Nyotaya Sugui, basée à Kalima. Nous sommes donc à Kalima avec vous. Kalima, comme je l'ai dit assez souvent d'ailleurs, c'est une minière qui aujourd'hui n'est plus comme elle l'était avant. Et toutes ces personnes qui travaillaient à la Somaïki à l'époque, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont au chômage?
Oui, Karim, c'est la grande calamité de Kalima. En tout cas, tous les personnels à chômage... presque, et n'entendre que la liquidation, c'est-à-dire le paiement de l'heure des comptes finales, qui n'arrive toujours pas. Hein. Vous savez, depuis que la Somaïki a cessé, il y a cela, nous sommes vers les années 1997-98, la Somaïki est tombée en faillite, les personnels en attente toujours de décompte, et ça n'arrive toujours pas. C'est dommage. La population souffre, surtout le personnel et ses sous-métiers.
Il y a la cassiterite, la richesse de Soussong. Il y a également des feuilles de manioc qui produisent également le manioc. Mais au-delà de ça, on va parler des poissons salés également, raffolés par les régats.
Oui, le poisson salé. Et ces poissons salés nous viennent à partir des Goma et Bouka. Vous savez qu'Alim aussi, c'est un milieu très enclavé. Hein, les routes ne sont pas tellement praticables. L'unique d'ailleurs qui la relie à la province, c'est-à-dire à Kindu, est dans un mauvais état pour le moment. Vous savez, pour arriver à Kindu, c'est Kalima à Kindu, vous pouvez passer toute la journée, alors que c'est juste 101 km. Alors, le reste des marchandises, même les poissons salés que je vous ai parlé, proviennent des Goma et toujours à travers les entonnoirs. Vous savez, les marchandises qui viennent par fret aérien coûtent toujours cher. Donc, même les poissons salés, on en veut bien, mais ça coûte quand même quelque chose.
Alors, à l'époque, bon, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, les choses ont peut-être changé. À l'époque, la ville même où on retrouvait des magasins, on retrouvait des boutiques, c'était à Kakouté, c'était assez à quelques kilomètres de Kalima, je ne sais plus combien. Mais ça existe toujours, à 4 kilomètres, mais ça existe toujours, Kakouté, il y a toujours des magasins, il y a toujours des boutiques tenues par les Pakistanais, je crois, ou les Indiens, je ne sais pas, ou les Indo-Pakistanais.
Oui, les Pakistanais, les Indiens, les Saoudiens appartiennent à la belle histoire Karine. Pour le moment, ce sont les autochtones hein, qui essaient un tout petit peu de se débrouiller, mais aussi avec les peuples Nandé et les peuples Chi qui viennent de Butembo et de Bukavu. Mais vous savez, Karine, à Kalima, c'est aussi cet aspect-là, l'attentisme. Hein. Vous savez, avec... l'esprit somaïki que je voulais parler, la population était habituée à tout recevoir, mais finalement, ça a créé dans les comportements de la population un esprit d'attentisme, c'est-à-dire tout va tomber du ciel. Et la conséquence, c'est quoi? Malgré tout ce qu'on a comme richesse, comme fortune qu'on gagne à partir de l'activité de station artisanale de la cassiterite, on ne songe pas tellement à renouveler même la construction de maisons de type ou même prendre des initiatives pour l'autodéveloppement de la cité. Et c'est sur ce point-là que la radio Unitaire Soubouy, dans sa vocation d'une chaîne communautaire, s'investit depuis maintenant 5 ans afin de promouvoir la dignité humaine dans toutes ses dimensions. Parce que ce n'est pas possible, on produit, je vous dis par exemple, au mois d'avril, on a exporté, ou c'est pas moi, on a fait transporter à peu près 180 tonnes de gâchis périls, de Kalima vers Roma et Bukavu. Mais si vous arrivez aujourd'hui à Kakuti, à Kalima, Karine, à part le vestige de la Somenti, les maisons sont en paille, mal construites, et vous sentez la misère. On ne comprend pas toute cette richesse-là. Si ça s'est construit à Goma, à Bukavu, ailleurs, mais pourquoi cette richesse ne doit pas construire ici chez nous? Voilà, et tout ça, c'est l'esprit de l'attentissement. Quoi, peut-être que le Belge reviendra pour reconstruire, alors que le Belge construira l'argent, et tout cet argent-là, parce que c'est la cassitéride. Pourquoi ne pas construire? Pourquoi ne pas prendre des initiatives dans les cas de développement? C'est pas un peu carré.
Alors, votre radio, la radio Unitaire Soubouy, il y a donc du travail à faire. Réveiller les consciences de la population de Kalima, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, c'est pas facile, ça demande du temps, hein?
Vraiment du temps. Et nous nous mettons depuis 5 ans.
Depuis 5 ans. Et jusque-là, vous ne palpez pas encore les résultats?
Le résultat, il y a ceux-là qui comprennent. Par exemple, à un certain moment, à Kalima, vous allez trouver. Et 15 maisons dans un quartier avec une seule toilette, un seul WC. Mais nous avons vraiment frappé dur, nous avons sensibilisé vraiment au bêta qui s'était. On a vraiment insisté et aujourd'hui les gens commencent à comprendre, ils ont des WC et nous pensons que le message commence à passer et il y a des effets et nous continuons dans ce sens-là. C'est juste un exemple.
Alors pour que nous parlons déjà de votre radio, nous entrons en plein pied dans cette célébration de la Journée internationale de la presse qui a pour thème liberté d'expression, accès et autonomisation des individus. Alors vous, la radio communautaire, elle est au service de la communauté. Est-ce que ça a été facile lorsque vous aviez décidé d'implanter la radio, l'évolution de la radio jusqu'à ces jours? Comment cela se passe? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire que vous êtes quelque part satisfait par rapport à ces 5 ans de travail, de dur labeur?
Oui, car vous savez, la radio Unitaire Soubouy, si elle est communautaire, tout d'abord c'est parce que elle émane d'une volonté populaire. Nous sommes vers les années 2003 où vraiment la guerre battait son plein, l'insécurité et surtout la désinformation. La population avait besoin quand même d'un canal d'information fiable. Les communautés chrétiennes de Kakuti et Kalima se sont réunies et ont sollicité un émetteur auprès d'un père savérien, père Marco Compagnolo, et finalement, le père a donné un émetteur, et c'est comme ça que la radio est née. Donc, nous nous sommes mis, et avec la population, avec une grille de programmes, des émissions, ici, de la volonté de la population, et aujourd'hui, nous pouvons nous dire que notre mission est à moitié accomplie parce que nous faisons encore chemin, on ne peut pas dire qu'on a tout fait, mais au moins nous estimons que nous avons aidé cette population et l'impact, le stigmate même de cette radio reste vraiment ancré au sein de la communauté.
Donc c'est déjà une bonne chose.
Plus d'informations, plus de sport, plus de culture, plus de musique. Pour plus de plaisir sur Radio Okapi en onde courte, tous les matins de 5h à 7h, heure de l'Ouest, 6h, 8h à l'Est, sur 9635 kHz. Et tous les soirs de 17h à 18h, heure de l'Ouest, 18h, 19h, heure de l'Est, sur 11890 kHz. Vous bougez, nous bougeons avec vous.
Monsieur Lingen, je rappelle que vous êtes directeur de programme et de l'information à la radio Nyota IA Soubouy, radio partenaire à Radio Kapi, basée à Kalima, à 5 km de la ville de Kidou. Nous sommes donc à Kalima aujourd'hui. Et Kalima est peuplée majoritaire par les Rega. Les Rega, c'est vrai qu'on retrouve à Kalima, qu'on retrouve à Chaboun également. On retrouve en fait le Rega au Maïma et également au Sud Kivu. Et il y a cette anecdote en fait quand on l'a dit en fait que les Rega auraient vendu leur village pour le poisson salé. Mais est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste une anecdote comme ça? Mais est-ce que ça s'est vraiment produit, ça s'est réellement passé?
Oui, Karine, vous savez, lorsque les Belges sont arrivés, à l'époque, c'était la CIMAS, hein, la CIMAS, et c'est la société qui a commencé, c'était une société à charte. Et en principe, avant d'exploiter, il fallait se mettre d'accord avec le chef coutumier.
Mmh.
Et le chef coutumier, selon l'histoire, avait demandé en contrepartie aux Belges pour céder la terre pour exploitation de la cassiterie, demander des boissons salées, demander un peu du pétard du sel. Et c'est comme ça que c'est devenu comme une légende que les Reds ont revendu leur terre aux Belges à cause de poissons salées, à cause de sel et tout ça. Donc, c'est une réalité.
Alors, nous parlons des Rega, les Rega dans leur tradition. Il y a cette histoire de Kimbilikiti qui fait peur, hein, quelque part.
Oui, ça, vous savez, Karine, chaque peuple a sa coutume, a ses traditions, et nous reconnaissons au peuple Rega cette tradition-là, l'initiation à la vie. Et ça s'est fait, et je crois qu'on ne peut pas beaucoup y entrer.
Ouais, c'est trop, c'est secret, il faut pas donner plus de détails, parce que déjà, il paraît que ceux qui vont là-bas, les jeunes, qui, les garçons, en fait, ce sont des garçons qui y vont, et qui n'ont pas les droits de dire ce qui s'est exactement passé, ils reviennent, ils gardent un secret. Les Rega, toujours, puisque là, nous parlons justement de la tradition et des coutumes de Rega, nous savons qu'ils se marient, il y en a qui donnent la vache, mais je crois que c'est plus la chèvre, hein, qu'ils demandent lors de célébrations de mariage.
Oui, c'est en tout cas la chèvre. Donc, si vous devez une fille Rega, il faut préparer une chèvre d'abord pour la maman, une chèvre, disons un bouc pour le papa, pièce wax complet pour papa, des souliers pour la maman, et après, maintenant la dot.
Et dans la dot, il n'y a pas de symbolique, je veux dire, pour les uns. Bon, c'est vrai que la machette, mais maintenant, c'est pas comme dans presque toutes les coutumes, traditions qu'on retrouve la machette. Mais il y a le sel également, je vois que c'est pratiquement partout. Mais quelles sont tes valeurs propres aux Rega, au-delà de la chèvre, au-delà du bouc?
Bon, autre valeur, c'est surtout, disons, la pièce wax pour la maman. Et avec les auxiliaires, souliers, foulards, pour le papa incomplet, avec souliers. Et bon, après, c'est juste des chèvres pour la dot. Donc, les anciennes traditions, là, on demandait les mbembe, par exemple, c'est un peu dépassé. Vous savez, avec le métissage, la mondialisation, et les histoires commencent un peu à changer, un petit peu.
Et les mbembe, c'est quoi? Vous en parlez, donc, ça, c'est une curiosité. Les mbembe, c'est quoi?
Les mbembe, ce sont de pièces, je dirais, d'escargots, hein. Qu'on ramassait sous les eaux, et ça représentait une valeur quand même à l'époque, hein, dans la coutume Rega.
Alors, c'est vrai qu'à Kalima, il n'y a pas que les Rega, parce que vous avez parlé d'une diversité culturelle. On retrouve, quels sont les autres tribus qu'on retrouve à Kalima?
D'abord, les Babangubang, qui sont leurs oncles. Hein,
oui.
Il y a les Nande, il y a les Kusu, il y a les Wasonge, il y a les Si, il y a les Wazimba. En tout cas, c'est un peu le Wasongo là aussi.
Alors, vous êtes vous-même Mubangubang. Alors, expliquez-nous un peu ces liens de parenté entre le Rega et les Bangubang. Comment est-ce qu'un Mubangubang peut être l'oncle d'un Rega? Ça s'explique comment?
Ah oui, c'est une longue histoire, Karine. Les Bangubangu, c'est tout d'abord les fils d'un Mulumba. Donc, son papa, c'est un Mulumba qui était venu du Katanga. C'était un peuple chasseur. Alors, à un certain moment, il y aura un papa qui... Je ne sais où est-ce qu'il venait, c'est dans les mouvements de migration.
Oui.
Il va retrouver ses Mulumba dans une forêt vers Kabambare, avec les papas, là, les Murega, avaient ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait une fille. Et les Mulumba vont les accueillir, et à un certain moment, les Mulumba va aimer la fille de ce Murega-là. Et finalement, des unions entre les Mulumba et la fille du Murega, mettra un garçon qu'on appellera un Bangubab, c'est-à-dire un autre, c'est un autre de nous. Et c'est de là où le Bangubang est venu. Donc, c'est pratiquement notre mère, les Murega, c'est notre mère. C'est grâce à elle que nous existons, et notre papa, c'est un Mulumba qui était venu du Katanga. Voilà un peu le lien qui nous unit, Karine.
Alors, il n'y a forcément pas de similitudes dans la tradition, parce que, bon, le Bangubang qui vient de... d'un Mulumba, un Rega, il y a pratiquement pas des similitudes, où il y en a quand même dans la tradition, dans le costume.
Dans la tradition, surtout avec les Baluba, si vous regardez notre dialecte, hein, donc quelqu'un qui parle les Kiluba, quelqu'un qui connaît le Kibangbangu, vous allez voir qu'il y a des mots qui se ressemblent et qui se compénètrent même. Donc, il n'y a pas vraiment une grande différence au niveau de dialecte. Bon, évidemment, au niveau de coutumes, tellement que les Moulouba, après avoir donné naissance à l'Umbangbang, il est rentré chez lui. L'Umbangbang est resté, il a évolué dans les territoires de Kabamba.
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Bon, un dernier message, c'est de souhaiter une excellente journée aux milliers d'auditrices et auditeurs qui suivent la radio Okapi à Kalima et dans les environs, grâce à la 100.4 MHz, la radio Okapi, mais aussi à la radio Okapi d'organiser dans l'avenir des ateliers de formation où tous les journalistes de ces radios communautaires partenaires du Congo démocratique pourront se retrouver pour échange d'expérience. Et pour cette journée spéciale de la liberté de la presse, c'est tout simplement d'encourager les professionnels de médias dans les rôles très nobles qu'ils exercent chaque jour pour éclairer le monde et surtout travailler au service.
Bien, merci beaucoup Charles Ingen, directeur de programme et d'information à la radio Nyota Asubuhi, basée à Kalima, à 5 km de Kindu. Nous vous recevons donc aujourd'hui dans le cadre de cette émission consacrée aux radios, aux partenaires, à Radio Okapi. C'était donc dans Une Voix pour tous. Merci et au revoir.
Au revoir Karim, merci.
Et mes salutations à tous les règles et les bangu bangu de Kalima.
C'est arrivé.